Quand nous habitions en région parisienne, il y avait une dame qui fréquentait la même église que nous. Je m'en souviens tellement, ça m'avait marqué à un point. Elle avait quitté l'église parce qu'elle reprochait au pasteur de trop parler de Jésus. Je me souviens qu'elle avait dit, je l'avais entendu dans le couloir, mais vous n'allez quand même pas parler de la croix de Jésus tous les dimanches, avait-elle dit. Elle avait visiblement pas compris à quel point la croix de Jésus est centrale et cruciale pour notre existence. Et j'allais dire, et même nous, chrétiens, est-ce qu'on comprend toujours bien la centralité de la mort de Jésus et ses ramifications dans notre vie? Est-ce qu'on le comprend toujours bien? Je dirais que ce passage d'aujourd'hui, Philippiens 2, en particulier les versets 6 à 11, qui parlent de Jésus, de son abaissement et de son élévation, ce passage même est la preuve qu'on ne comprend pas toujours très bien la centralité de la mort de Jésus. Pourquoi? Par exemple, moi-même, combien de fois ai-je parlé de ce passage en le sortant complètement de son contexte? Sans aucune autre explication. Comme si Paul avait soudainement décidé, en plein milieu de sa lettre aux Philippiens, de pondre ce texte, juste pour qu'on puisse adorer le Seigneur comme ça en plein milieu. Ça, quand je me suis rendu compte que je déformais si souvent ce texte-là en le sortant de son contexte, je me suis dit, mais ça veut dire que je n'ai pas compris pourquoi Paul l'a mis ici et ce qu'il veut nous dire à travers ce passage. Si Paul a inséré ces versets ici, c'est parce que la croix est véritablement centrale à son raisonnement et qu'elle est centrale à notre vie, à tous. Et on va le voir au plus haut point. Ce matin, on va parler de trajectoire de vie. On va comparer la trajectoire de Philippiens et on va commencer par ça, justement. La trajectoire des Philippiens. Et en creusant la trajectoire des Philippiens, on va forcément être amené à parler de la nôtre aussi. Quelle est la trajectoire de notre vie? Et ensuite, on comparera avec la trajectoire de Jésus, bien entendu. Et on va voir que malheureusement pour nous, ces trajectoires se croisent. Nous allons constater ensemble ce matin qu'il nous faut revenir à la croix de Jésus chaque jour. Il nous faut revenir à la croix pour justement faire infléchir la trajectoire de nos vies. C'est ce qu'on voit maintenant. On commence donc par la trajectoire de la vie des Philippiens. Qu'est-ce qui se passe ici, dans le passage du jour? Parce que depuis le début de la lettre, on a constaté une affection qui nous paraît sans limite. Paul a de l'affection pour les Philippiens. Il les aime. Ce sont des gens véritablement géniaux qui ont soutenu Paul alors même qu'il est en prison. Ce sont des gens qui continuent son ministère d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Franchement, ça change des autres lettres où Paul est obligé de reprendre ses destinataires sur tel ou tel point. Et là, on n'a pas l'impression d'avoir ça. On a l'impression d'un amour débordant, on a l'impression que tout va bien. Et là, tout d'un coup, versets 2 et 3, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Ne faites rien par esprit de rivalité. Mais cette belle image lisse qu'on croyait avoir depuis le début de la lettre, là, elle en prend un coup, là. Cette belle image commence à se fissurer. Ça ressemble, à ce moment-là, à une toute petite fissure, pour le moment, mais au chapitre 4, ça sera une fissure bien plus visible, au point que Paul sera cette fois-ci obligé de reprendre deux femmes, pourtant deux collaboratrices, deux femmes qui ont été engagées à fond pour le ministère avec lui, mais il est obligé de les reprendre ouvertement. Petite fissure au chapitre 2, là maintenant pour nous, grosse fissure au chapitre 4. Je vous lis, hein, le chapitre 4. « Je recommande à Évodie et à Saint-Tiche de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide. » Parce qu'elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile. Deux femmes géniales, engagées pour le Seigneur, qui ont combattu avec Paul, et pourtant Paul est obligé de les reprendre. Il semble bien que la question de l'unité soit véritablement le cœur du problème de la lettre aux Philippiens. Le combat qu'ils doivent mener. Unité dans le combat pour l'Évangile. Il y a 15 jours, lors du dernier culte où nous avons abordé la question des Philippiens, vous vous souvenez peut-être de ce qu'avaient dit Corinna et Florian. Corinna nous avait parlé de combat, elle nous avait rappelé l'image des mousquetaires du roi, elle nous avait rappelé le slogan « Un pour tous et tous pour un. On pouvait... Il faut être unis pour combattre. Et Florian nous avait dit après, mais ce combat pour la foi que les Philippiens sont obligés de mener, eh bien, Florian nous avait dit, mais on est plus intelligent et on est plus fort quand on est ensemble. Et il avait raison. Combat de la foi, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. C'est bien l'unité, le problème des Philippiens. Et la preuve, aujourd'hui, eh bien, il est question de rivalité, de désir de se mettre en avant, de recherche, de gloire personnelle et de ses intérêts personnels. La voilà, la trajectoire des Philippiens. C'est ça qu'ils veulent pour leur vie. Ce sont des mots qui sont issus du passage, hein. Rivalité, désir de se mettre en avant, recherche de gloire personnelle, intérêt personnel. Et pourquoi ces attitudes sont une telle menace? Eh bien parce qu'on est justement dans un combat. Quand une église est engagée dans un combat pour l'évangile, quand une église souhaite que Jésus soit connu, eh bien la division est une menace réelle. Parce que la division mine le travail de témoignage. On a besoin d'être tous sur la même longueur d'onde. Et c'est là qu'est le problème, c'est que, malgré ça, nos intérêts finissent toujours par revenir à la surface. Notre désir de gloire perso, de gloire personnelle, elle finit toujours par prendre le dessus. C'est ça, là, finalement, la trajectoire naturelle de la vie rêvée d'un homme et d'une femme. Alors, il nous faut lutter contre nous-mêmes et rester unis. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, les repas. À la maison, il arrive régulièrement que ça se passe mal, voire même très mal. Et certains d'entre vous qui sont régulièrement dans cette pièce, je pense particulièrement à ceux qui font partie du groupe théâtre, qui sont là le lundi soir à partir de 19h30. Je pense aux musiciens qui viennent répéter pendant la semaine, ou alors le dimanche matin. Vous entendez peut-être parfois des cris et des hurlements à travers la porte. C'est la porte qui donne juste à notre maison, là. D'ailleurs, si on a demandé à Philippe Darigrand de mettre une double porte, vous ne le savez pas, il y a une double porte. C'est pas parce que vous nous dérangez. C'est parce qu'on avait trop peur que nos cris vous alertent, en fait. La semaine dernière, il y avait des yaourts pour le dessert. Et on avait oublié de mettre des petites cuillères. Paul, pour ne pas le citer, notre deuxième, il a piqué une colère parce qu'il n'avait pas sa cuillère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il est allé chercher une cuillère, juste pour lui. Juste pour lui. Et une fois, bon, ça arrive, l'autre, ça arrive plus régulièrement, qu'il n'y ait pas suffisamment d'eau dans la carafe, et plutôt que de se lever pour aller chercher de l'eau pour tout le monde, eh ben, on fait des comptes d'apothicaire, on met tous les verres ensemble, et on a sa dose au fond du verre, et ça suffit. Voilà. Aucun esprit de service. Aucune vision globale de la famille. Vous imaginez bien qu'une famille qui vit comme ça, elle ne peut pas tenir à long terme. Elle ne peut pas tenir. Une famille qui vit comme ça, elle ne peut pas être investie par un projet qui la dépasse complètement. Il lui faut d'abord résoudre ses problèmes d'ego à une famille comme celle-là. Et c'est là que je parle de la mienne. Hein. Alors, si c'est vrai pour les Philippiens, qu'eux aussi sont obligés de résoudre leurs problèmes d'ego avant de pouvoir être unis ensemble pour servir le Christ et annoncer sa parole, eh bien, c'est d'autant plus vrai pour nous, ici, aujourd'hui. On a besoin d'être unis, comme une seule âme. On a besoin de ne pas laisser nos intérêts personnels prendre le dessus. Est-ce que vous connaissez la pub pour Carglass? Ça vous dit quelque chose? Carglass remplace, je vois que c'est connu, ouais. Carglass, c'est un spécialiste qui conseille en général de ne pas laisser un impact de cailloux, par exemple, sur son pare-brise, parce que visiblement, à long terme, cet impact sur le pare-brise peut engendrer une fissure complète du pare-brise qui est foutue. Après, il faut le changer. Mais chez Carglass, qu'est-ce qu'ils font? Chez Carglass, ils peuvent combler l'impact. Ils vous proposent de combler l'impact sur votre pare-brise pour éviter que la fissure ne s'agrandisse. Et je dirais que c'est exactement, on dirait que c'est du vécu là, ok, c'est exactement ce que nous propose Paul ici. Vous avez constaté cette petite fissure dont il parle ici au chapitre 2, fissure qu'on constatera encore plus grande au chapitre 4 avec Évodie et Saint-Tiche qui ne peuvent pas s'encadrer. Eh bien, Paul, il nous propose ici de résoudre nos problèmes d'ego pour ne pas que le pare-brise éclate. Et pour aller à l'encontre de cette menace pour l'unité que représente notre ego, il n'y a rien de moins pour Paul qu'un retour à la croix. C'est pour ça que la croix est centrale. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, on n'arrêtera jamais de parler de Jésus et de la croix. Parce que c'est ça qui nous fait vivre et c'est ça qui nous fait avancer. Alors, il nous faut regarder la trajectoire de Jésus et cette fameuse croix maintenant. Les grands moyens, selon Paul, la croix du Christ. Verset 6. Lui qui, le Christ, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Qu'est-ce qu'on apprend ici ? On apprend que le Christ s'est dépouillé. Il s'est dépouillé alors qu'il était de condition divine. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'il était Dieu le Fils, existant depuis toujours, mais qu'il a renoncé temporairement à ses privilèges, à sa position et à sa gloire. En gros, c'est ça la trajectoire de Jésus. Oups, il n'y a qu'un seul qui aurait dû s'afficher, mais c'est pas grave. Comme ça, vous avez le chemin complet. Jésus n'a pas regardé sa situation comme un butin à vouloir préserver à tout prix, mais il s'est dépouillé, il ne s'est pas agrippé. J'ai pensé à ces présidents dans certains pays dans le monde qui s'agrippent à leur pouvoir. Ben, c'est exactement le contraire qu'a fait Jésus. Jésus, lui, qui aurait été légitime pour s'agripper à qui il était, à sa gloire, à ses privilèges, à l'endroit où il était. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben non, il a fait le contraire. Il s'est dépouillé. Il a pris la condition de serviteur. Il a pris même la condition d'esclave. C'était son droit de s'attacher à son statut divin, mais il a accepté un double abaissement. Il est devenu un homme et il a accepté la pire condition qui soit en tant qu'homme, celle d'esclave qui donne sa vie pour nous. La mort sur la croix. À cette époque, dans l'Empire romain, la croix, c'était la mort la plus horrible qu'on pouvait imaginer, au point que si on était citoyen romain, on ne pouvait pas souffrir le martyre de la croix. C'était interdit. Ce n'était pas possible pour un citoyen romain. C'était un véritable scandale, la croix, à l'époque. Nous, qui portons souvent des croix en bijoux, on se rend plus compte à quel point la croix est une véritable horreur. On se rend plus compte de ce que Jésus-Christ a dû subir pour nous. Mais c'est ça qu'il a fait. Il s'est abaissé de sa position de Dieu. Et il s'est fait homme pour souffrir la mort sur la croix. Il a tout donné. Il a encaissé la honte, il a encaissé la souffrance. Pas pour ses intérêts, mais pour les nôtres. C'est là qu'il faut nous arrêter quelques instants pour comparer la trajectoire de Jésus avec la nôtre, bien évidemment. Le livre de la Genèse présente l'homme et la femme comme le sommet de la création de Dieu. On a été créé à partir de rien, on a été créé à partir de la poussière du sol. Mais Dieu a fait de nous des créatures à son image. On est le chef-d'œuvre de la création, au point que le psaume 8 dit au sujet de l'homme, « Eh bien, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire. » Vous vous rendez compte le statut qui est le nôtre en tant qu'homme et femme? On a un rang prodigieux dans la création. On est de peu inférieur à Dieu. Nous sommes son image. On est les créatures les plus merveilleuses que Dieu ait créées. Et il nous a confié la gestion de sa création. Mais est-ce qu'on s'est contenté de ce rang prodigieux que Dieu nous avait confié, que Dieu nous avait donné ? L'homme et la femme ont été tentés lorsque le tentateur leur a dit « Vous allez devenir comme des dieux. » Et c'est là exactement notre tentation. Nous voulons devenir comme des dieux. Le rang que Dieu nous a confié ne nous suffit pas. Et nous voulons quoi ? Nous voulons lui prendre la place. Vouloir être Dieu. C'est ça ce que nous voulons saisir, nous. Et alors que le Fils de Dieu, lui, Jésus, ne s'est pas saisi de ce droit qui était le sien, à savoir de rester dans sa gloire, les humains, nous, on a voulu saisir ce qui n'était pas à nous. Sa place. Être comme des dieux, être Dieu. On est les plus grands usurpateurs qui existent, en fait. Nous ne sommes que des images, mais on veut prendre la place du modèle. Nous ne sommes que des créatures, mais on veut prendre la place du créateur. Alors c'est pour ça que Paul met devant nos yeux ces deux trajectoires. Ces deux trajectoires qui se croisent. Celle du Fils de Dieu qui s'est abaissé et nous qui sommes désespérément en train de vouloir nous élever à tout prix. Le Fils de Dieu est descendu et nous, on veut monter. Les amis, je crois qu'on a, on ne se rend pas compte à quel point on a infiniment besoin de notre Sauveur, Jésus. On est des rebelles à Dieu. On mène notre vie comme bon nous semble et on méprise notre Créateur. On n'en fait qu'à notre tête. Et lui, ce Jésus, ce seul homme qui était parfaitement bon sur la terre, eh ben, il s'est humilié jusqu'à mourir. Il a pris notre place sur la croix. On méritait la colère de Dieu, mais c'est Jésus qui l'a subi à notre place pour qu'on puisse être épargné, pour qu'on puisse vivre. Et Jésus, il a encaissé. Remarquez que Jésus, il a encaissé jusqu'au bout. Il a franchement encaissé jusqu'au bout. Parce que nous, quand on essaye d'être humble, est-ce qu'on encaisse en fait jusqu'au bout véritablement ? Est-ce qu'on ne met pas des limites à notre humilité ? Du genre, ah mais je suis capable d'encaisser ça, mais là franchement, c'était too much, quoi, c'était trop. C'est la goutte qui fait déborder le vase. On m'a manqué de respect là. Je ne peux pas laisser passer ça. Jusqu'où on peut encaisser une parole blessante ? Jusqu'où est-ce qu'on peut encaisser un manque de reconnaissance de la part des autres ? Lorsqu'on se pose ces questions, j'ai peur qu'on soit déjà en train de croiser la trajectoire de Jésus, et pas dans le bon sens pour nous. Imaginez si Jésus avait connu ce point de rupture, justement. Dans le désert, quand il a été tenté par le diable, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain. Ou sur la croix, ça lui a été dit, si tu es le Fils de Dieu, ben descends de la croix, sauve-toi toi-même. Eh bien, si Jésus avait connu ce point de rupture, si Jésus avait mis une limite à son abaissement, eh bien, on ne serait pas là pour en parler. Parce qu'on serait sous le coup de la colère de Dieu, nous ne serions sauvés par personne. Heureusement que Jésus n'a pas eu de limite, n'a pas eu de point de rupture à sa capacité à s'abaisser, contrairement à nous. Mais Paul ne s'arrête pas à l'abaissement de Jésus. Vous l'avez déjà remarqué, vu que j'ai été grillé par ma diapo. Paul nous parle aussi de l'élévation de Jésus derrière. Être élevé, c'est ça que nous recherchons au final. Alors c'est important d'essayer de comprendre ce qui se passe ici. Être élevé, c'est ça qu'on recherche, même quand on ne veut pas se l'avouer. Je voudrais vous donner un exemple perso. J'ai un peu honte, mais j'ai dit, allez, tant pis, je balance. Lors du dernier synode, mon ami et collègue qui s'appelle Christian Huy, peut-être que vous le connaissez, il était pasteur à Nîmes, maintenant il est pasteur à Gobert. Il a été élu à la commission synodale, l'organe de direction de notre union d'église. Et un autre de mes amis qui s'appelle Frédéric Hubeau a été positionné pour y rentrer la fois prochaine, dans 2 ans. Toutes ces choses-là, c'est pas mon truc, hein. Je l'admets, les réunions de décision et compagnie, le brasser des visions et tout, je pense pas avoir les dons pour être dans ces positions-là, dans ces postes-là. La question est pas là. Mais je dirais que le fait que mes amis soient cités, n'y a-t-il pas eu une sorte de pointe de jalousie en moi ? Et je vous le dis, il y en a eu. Je me suis demandé pourquoi. Est-ce que c'est par intérêt personnel ? Est-ce que c'est par désir de vaine gloire ? Je ne suis pas sûr. Je crois plutôt discerner en moi une certaine forme d'insécurité. Vous savez, cette espèce de honte de penser qu'en fait, je ne suis rien du tout. Forme d'insécurité. Mais au final, est-ce que c'est grave et honteux de n'être rien ? C'est cette sorte d'insécurité qui nous pousse sans cesse à nous comparer les uns avec les autres. C'est cette insécurité-là qui nous pousse à vouloir être le meilleur et à rechercher l'estime et l'approbation des autres. Cette insécurité, elle nous pousse à nous projeter sans cesse dans l'avenir et à craindre pour notre avenir. On voudrait mieux, on voudrait encore progresser. Donc vous voyez ici votre pasteur sous un autre jour, mais je pense que ça vous fait du bien aussi, à moi beaucoup. Mais à vous aussi, pour que vous sachiez vraiment qui je suis et que vous ne soyez pas tenté de placer votre confiance en moi, mais plutôt en Christ. Alors l'apôtre Paul ne s'arrête pas à la croix, il poursuit avec l'élévation de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur ». À la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi. Il y a ces belles paroles, ces deux mots prodigieux, ces trois mots prodigieux. C'est pourquoi. Il y a un lien. Il a été élevé parce qu'il a été abaissé au plus haut point. Et à son nom, tout le monde plie le genou. Peut-être pas maintenant tout de suite, mais dans l'avenir, c'est certain. Et ça, c'est la réponse à toutes nos craintes, toutes. Est-ce qu'on doit craindre l'avenir ? Non. Jésus règne. Il est Seigneur de l'univers. C'est lui qui gouverne tout. On peut aller joyeusement proclamer son nom. On n'a rien à craindre de la part des hommes. Pourquoi rechercher l'estime et l'approbation des autres ? Le seul regard qui compte, c'est celui que Jésus porte sur nous. On n'a pas à craindre le regard des autres. Il est le seul juge. Pourquoi rechercher la gloire ? Le seul nom qui comptera au final, c'est celui de Jésus. C'est à son nom seul que tout genou fléchira. Lui seul le mérite. Il est le seul à avoir donné sa vie pour qu'on soit pardonné. Pourquoi cette crainte de n'être personne ? Mais tu n'es pas personne. Dieu t'aime. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour toi. Pourquoi cette inquiétude de ne pas être reconnu à notre juste place ? Désirer un peu de gloire quand même, pour nous. Une meilleure place. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière quand on avait médité l'évangile de Marc. Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous, le serviteur de tous. Jésus... Et la démonstration que cette promesse est vraie, il s'est abaissé et il s'est élevé. Il a été élevé ensuite. Eh bien, ça marche pour nous. Ça marche pour nous également. Chaque fois que nous suivons Jésus dans son abaissement, on peut avoir confiance qu'il nous élèvera également. Jésus ne critique pas notre désir de grandeur, mais il nous dit que la seule véritable trajectoire qui mène à la grandeur, c'est celle qui mène à l'abaissement. Alors voilà les versets 3 à 5. Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. C'est quoi la pensée qui était en Christ Jésus ? C'est la pensée des intérêts de l'autre avant les nôtres. La trajectoire du serviteur, la trajectoire de la vraie grandeur, c'est celle du serviteur qui s'abaisse. Pour les autres. Maintenant qu'on a fait ce chemin avec la trajectoire de Jésus, on peut revenir à ce verset 1 par lequel nous avons commencé et cette interrogation de Paul. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort ? N'avez-vous pas trouvé dans l'amour un encouragement ? Et par l'esprit, une communion entre vous ? N'avez-vous pas trouvé de l'affection et de la compassion ? N'avez-vous pas trouvé ? Comme si les Philippiens en doutaient. Mais voyez jusqu'où notre ego peut nous conduire. Notre ego nous aveugle. Parce qu'effectivement, si on a bien compris ce que Christ a fait pour nous, eh bien, il y a du réconfort, il y a de l'encouragement, il y a de l'amour les uns pour les autres, il y a de la compassion et il y a de l'affection. Parce que c'est ce que Dieu a eu pour nous, tout ça. Je voudrais conclure. Quand j'étais en terminale en 1996, il y avait Patrick Bruel qui chantait « On s'était dit rendez-vous dans 10 ans ». Vous connaissez cette chanson? Ça vous dit quelque chose? Ok. C'est ce qu'on avait fait avec ma bande de copains. On était tous partis en post-bac vers des horizons différents aux quatre coins de la France. Mais on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. On s'était promis qu'en 2006, on réveillonnerait ensemble. Vous imaginez? Réveillon 2006 avec tous les potes du collège et du lycée. Et au réveillon 2006, il y avait qui? Il n'y avait personne. Notre unité, elle avait volé en éclats. 10 ans plus tard, on ne voulait pas être ensemble le soir du réveillon. On avait d'autres choses de mieux à faire. Sous la pression de nos désirs personnels, notre belle promesse avait volé en éclats. Alors la semaine dernière, on a joué à The Voice, mais est-ce que vous connaissez « N'oubliez pas les paroles » ? Ouais ? Alors on va voir si vous n'oubliez pas les paroles de « On s'était dit rendez-vous dans 10 ans ». D'accord ? C'est formidable, les copains. On s'est tout dit, on se serre la main. Ensuite. Wow, bravo Sam. Franchement. Ah, c'est formidable les copains. On s'est tout dit, on se serre la main. On ne peut pas mettre 10 ans sur table comme on étale ses lettres au Scrabble. La vie se charge effectivement de nous séparer et après 10 ans, ça devient difficile d'étaler nos vies comme ça. En une rencontre. En plus, quand les liens se distendent forcément avec nos égos personnels qui prennent de la valeur, il ne reste pas grand-chose de ces amitiés-là. Peut-être que certains parmi vous ont plus de chance, mais ou ont fait taire un peu plus leur égo que moi je ne l'ai fait pour pouvoir conserver ces amitiés-là. Mais à nous, notre amitié, à nous tous, là, ici présents, sur quoi est-elle basée ? Notre amitié. Est-ce que dans 10 ans, si on se donnait rendez-vous là dans 10 ans et qu'on s'éparpillait tous aux quatre coins du monde, est-ce qu'on reviendrait dans 10 ans pour s'encourager mutuellement? Notre amitié, nous dit Paul, elle est construite sur du solide. Elle est basée sur ce qu'on vient de lire dans Philippiens 2. On vit quoi? On vit le même réconfort venant de Christ. On reçoit le même encouragement de la part de Dieu. On est unis par le même esprit et on a reçu l'affection et la compassion du Père. Et lorsque nos égos nous jouent des tours, lorsqu'ils se débattent et qu'ils veulent même avoir le champ libre dans l'Église, eh bien, il nous faut nous rappeler que notre unité est cruciale dans le combat de l'Évangile que nous menons. Sinon, eh bien, nous ne tiendrons pas et nous serons un contre-témoignage à Christ. Voilà pourquoi Paul revient ici à la croix. À l'essentiel de la croix de Jésus. Avec ce retour à la croix, Paul, en quelque sorte, il nous vaccine contre nos tentations. Il nous vaccine contre notre recherche de gloire personnelle, contre la poursuite de nos intérêts. Il nous vaccine aussi contre nos craintes et contre notre insécurité. Et il nous montre Jésus. Il nous montre son abaissement total et son élévation suprême. Tu veux être élevé comme Jésus? Pas de problème. Il te faudra aussi connaître son abaissement. Considère les autres comme supérieurs à toi-même. Sois humble et vis en bon accord avec tout le monde. Pour la gloire de Jésus. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ton amour pour nous. Merci parce que tu t'es abaissé en devenant un homme et en mourant à notre place sur la croix. Tu as payé le prix de nos fautes pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Et merci parce que tu es ressuscité, la mort n'a pas pu te garder. Tu es vivant aujourd'hui, tu règnes sur l'univers. Et un jour, tout cela sera visible pour tous. Père, merci pour le réconfort, l'encouragement, la joie qui nous viennent de toi parce que tu nous aimes. Donne-nous d'être unis. Donne-nous de pouvoir faire infléchir la trajectoire de nos vies. Aide-nous à nous abaisser et à considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Rends-nous humbles et donne-nous de vivre en bon entendement dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen.